I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Et si vous ajoutez un peu de natation dans votre vie de runner, c'est ce que je vous propose avec cet épisode dédié au swimrun. Allez, c'est parti. Bonjour, bonjour, c'est Bertrand, bienvenue dans Kilomètre 42, le podcast dans lequel je vous parle de sport, de mouvement, de course à pied sur route, course à pied sur les chemins, sur la piste, course à pied quand on a oublié de ce que c'était courir pendant 20 ans comme moi, qui était devenu un gros hamster joufflu sur mon canapé, ou alors peut-être de course à pied avec des pratiques un petit peu différentes, et notamment aujourd'hui nous allons parler de swimrun qui mélange course à pied et natation. C'est une discipline qui est assez récente, et aujourd'hui ce que je voudrais vous faire découvrir tout simplement, bah c'est cette discipline. Pourquoi ? Parce que vous savez que dans quelques jours, je prendrai le départ avec l'ami Hermano de notre tout premier swimrun. Là, on est à une dizaine de jours du départ. Alors, je suis un petit peu tendu, vous voyez, le hamster coureur va donc devenir un hamster nageur. Et c'est une discipline qui mêle, qui alterne même, qui course trail et nage en eau libre. On passe de l'un à l'autre, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq, six fois. Et donc, c'est vraiment une découverte pour moi parce que je cours oui, tous les jours, presque, mais je nage pas si souvent que ça. Et donc, ma crainte, c'est de dire, est-ce que j'en suis capable? Est-ce que je vais y arriver? Alors, pour me préparer, j'ai cherché des conseils. Et là, je n'ai pas fait dans la demi-mesure. Il y a quelques années, j'avais découvert ce sport par le biais d'un documentaire sur la course qui a inventé la discipline. Alors, le documentaire était impressionnant parce que on voyait des coureurs qui couraient pendant des heures dans le froid avec des grandes vagues dans la mer qui passaient sur des rochers. Ils parcouraient pas moins de 19 milles sur 75 km, 65 km de course à pied et 10 km de nage. Ils faisaient ça dans le nord, en Suède, tout simplement, là où la discipline a été inventée. La discipline, c'est le swimrun, donc, et c'était inventé. Le principe, c'est l'Otilo, cette course-là, d'île en île, en suédois. Et donc, ils passent comme ça, d'île en île, avec en tenue, j'ai envie de dire. Ils partent avec les baskets aux pieds, la combinaison, le bonnet, les lunettes, et ils nagent, ils courent, ils nagent, ils courent. Tout ça, en plus, attaché avec une longe. Et vraiment, cette course est devenue le championnat du monde de la discipline, petit à petit. C'est devenu une marque, comme nous en a parlé mes invités. Car je suis allé demander conseil à deux athlètes qualifiés pour cette course. Jérémy Huet et Nicolas Martin sont deux triathlètes qui sont passés au swimrun. Alors j'aurais même d'ailleurs demandé si finalement c'était plus facile d'avoir deux disciplines que d'avoir trois disciplines. Et je leur ai demandé leur meilleur conseil pour me lancer moi aussi dans la discipline. Et qu'ils nous présentent aussi finalement comment ils s'entraînent, quel est leur parcours, comment ils ont fait pour se qualifier pour les championnats du monde, comment finalement ils abordent la discipline, comment on fait pour passer de l'un à l'autre. Et puis bien sûr je leur ai demandé les clés, non seulement pour comprendre la discipline, ses subtilités, mais aussi quel était finalement le matériel qu'il fallait, de la technique, des astuces, comment on faisait pour bien débuter et tous les petits conseils, vous voyez, à glaner comme ça avant de prendre le départ. Mais avant de vous laisser écouter notre discussion avec mes deux invités, je voudrais d'abord vous faire deux, trois petits rappels. Le premier, c'est que ce podcast est financé par la publicité, que vous avez peut-être entendu, mais aussi par vos soutiens. Vous pouvez soutenir le podcast par Patreon, c'est une plateforme de financement participatif. Vous pouvez donner à partir de 1€ par épisode. Ça va m'aider à poursuivre mon rêve de vivre du sport et de devenir un sportif professionnel à ma manière. Et vous aurez alors accès aux épisodes sans la pub, mais surtout à mon journal d'entraînement privé. Tous les lundis matins, je vous diffuse dans un podcast privé, un flux privé. Vous avez un nouveau flux, vous voyez à nouveau ma tête apparaître dans votre lecteur de podcast avec mes entraînements, ce que j'ai fait, comment j'ai couru, mes sentiments aussi. Et puis, je vous livre aussi un petit peu les coulisses, les futurs invités. Et puis aussi, il faut le dire, je délivre la plupart des épisodes un petit peu en avance. Quand ils sont enregistrés en avance, je vous les livre, en général, la veille. Je voudrais aussi vous reparler du Hamsters Running Club, qui est la communauté qui grossit un peu tous les jours. C'est une communauté bienveillante qui vous aide à bouger, à courir, dans laquelle vous pouvez venir poser toutes vos questions, que vous soyez un débutant ou un coureur plus aguerri. Il y a de tout, il y a des gens qui commencent juste à faire leur premier pas, il y a des gens qui courent depuis des années, mais le but du jeu c'est justement de s'entraider. Et là on est à l'abri de Facebook, des GAFA, des algorithmes, des groupes où il y a une mauvaise ambiance, dès que vous venez de dire que vous courez à seulement 9 ou 8 km/h. Ici on ne juge pas, on est là pour s'entraider et on est vraiment à l'abri de certains athlètes qui ne comprennent pas notre pratique, qui ne comprennent pas pourquoi on marche, qui ne comprennent pas pourquoi on s'entraîne aussi peu, pourquoi finalement on se satisfait d'avoir couru une course à seulement cette vitesse-là. Mais en fait, ils ne comprennent pas que pour nous, c'est une victoire de rechausser les baskets, de reprendre le chemin les chemins, de les recourir. Et voilà, on est à l'abri de tous ces comportements-là. Et vous pouvez venir discuter en toute tranquillité parce que ce qui est dans le Hamsters Running Club reste dans le Hamsters Running Club et on est là pour s'entraider, pour s'aider, pour progresser tous ensemble. Et voilà, chacun avec ses objectifs, chacun avec le temps dont il dispose, chacun, en plus c'est une communauté internationale, il y a des mondes dans tous les pays, hein, ça se rassemble, hein, on traverse même l'Atlantique, parce qu'il y a des gens qui ont un bon décalage horaire, on est écouté un petit peu à droite à gauche, et vraiment ça fait chaud au cœur, parce que dans ces discussions-là, il y a beaucoup, beaucoup d'entraide, et notamment avec des sujets qui sont très intéressants, qui vous aideront aussi vous à progresser, et qui vous permettront aussi d'aider ceux qui veulent progresser, parce qu'on a tous, un petit truc à apporter aux autres pour les aider, parce qu'on est tous passés un jour par ce chemin, parfois compliqué, de commencer à courir, d'accélérer, de trouver des entraînements, de trouver du temps, de comment on s'entraîne tout seul, comment on s'entraîne si on a des enfants, etc. Tous ces sujets-là sont abordés dans le club, donc je vous attends, je vous mets bien sûr un lien dans les notes de l'épisode. Enfin, je voudrais vous remercier pour vos dédicaces sur les réseaux sociaux, et notamment Instagram. N'hésitez pas à venir poster une petite photo en story en me taguant @BertrandSoulier ou avec le hashtag KM42podcast. Moi, je surveille un petit peu tout ce qui se passe, je repartage ça, et ça montre en fait que nous sommes tous de plus en plus de fous à venir courir. Je dis de plus en plus de fous parce que certains vont courir trop le matin, et puis certains vont courir tard le soir. Il y en a qui partent à la frontale, il y en a qui partent vraiment comme ça à l'aventure en pleine nuit, qui confondent les herbes avec des grands animaux. Et c'est vrai que quand vous partez sur les chemins en pleine nuit, bah, ça peut être un petit peu surprenant. Et ben, on voit tout ça, on voit aussi des levées de soleil, des couchers de soleil, des paysages, etc. Grâce en fait à vos partages, et je vous remercie beaucoup pour vos partages. Et puis bien entendu, merci à tous ceux qui me laissent une note 5 étoiles sur Apple Podcast. Vous savez que ça aide le podcast à être découvert, à ce que Apple Podcast le montre à plus de gens. Et je remercie Nawel Zeli pour son commentaire qui m'a dit « Merci pour ces moments partagés avec nous en toute simplicité. J'aime écouter les conseils ou les partages avec tes invités. C'est toujours un vrai moment de plaisir qui agrémente mes sorties matinales. » Et ben, ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, je n'ai pas un invité, mais j'ai deux invités. Jérémy Huet, Nicolas Martin, je vous le dis, étaient qualifiés hein, parce qu'ils vont nous raconter ce qui s'est passé ensuite pour les championnats du monde de swimrun. Donc ça fait partie, voilà, ils ont fait beaucoup d'efforts pour y arriver. Ils vont nous faire découvrir dans cet épisode les subtilités du swimrun. Qu'est-ce que c'est le swimrun réellement? Quelle est la philosophie? Comment on peut se préparer? Quel est le matériel? Comment on peut débuter dans cette discipline-là? Quels sont les petits conseils, les petites astuces? Aussi un petit peu leurs espoirs et leurs rêves à la fin, arriver bien jusqu'au bout, parce qu'ils dévoilent aussi un petit peu où ils vont aller. Et n'hésitez pas aussi, je le redis dans l'épisode, à aller les suivre sur les réseaux sociaux, parce qu'ils partagent aussi beaucoup d'informations si vous êtes intéressé par ce qu'ils font. Donc je vous laisse tout de suite écouter notre discussion avec Jérémy et Nicolas Martin. Et attention, méfiance, il se pourrait qu'après vous ayez envie vous aussi d'essayer cette discipline, qui est une discipline assez récente mais vraiment à part, et qui va vraiment se développer parce qu'elle mêle la natation en eau libre mais aussi le trail, avec vraiment un état d'esprit autour de la nature. Et ils le préciseront notamment sur le fait que on ne laisse pas traîner tout un tas de choses, etc. Il faut être respectueux de la nature, et c'est un élément important. Et puis c'est aussi des courses qui se font en duo, en équipe, et qui apportent une nouvelle dimension à la course à pied, et c'est ce qu'ils nous expliquent très bien dans cet épisode. Allez, je vous laisse écouter cet épisode avec mes invités, et je vous souhaite une très très belle écoute et de bons entraînements, et je vous dis à la semaine prochaine. Bonjour Jérémy, bonjour Nicolas, comment allez-vous?
Bonjour. Bonjour Bertrand, ça va très bien. Très bien, oui, merci.
Alors, je vous ai invité, c'est la première fois que j'ai deux invités dans le podcast, mais on ne peut pas en inviter un sans inviter l'autre, parce que vos compétitions à vous, vous êtes forcément tous les deux ensemble. C'est un sport dont on va parler, c'est la première fois qu'on en parle dans le podcast. On va parler de swimrun, et je vais vous laisser vous présenter. Avant de parler du sport, on va un petit peu essayer de vous présenter pour essayer de comprendre un petit peu quel est votre parcours et comment finalement vous êtes arrivé sur cette discipline qui n'est pas forcément très connue, ou en dehors peut-être. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui ont vu un reportage de Canal+ sur la fameuse course d'Otilo, des choses comme ça, mais finalement, il n'y a pas grand monde qui a fait du swimrun, en tout cas moi dans mon audience. Et donc, ce que je vous propose, c'est de me dire un petit peu, vous présentez-vous l'un et l'autre, hein, et puis comment vous êtes arrivé à cette discipline?
Ouais, bonjour à tout le monde. Donc moi, c'est Jérémy Huet, j'ai 39 ans, donc je suis marié, j'ai deux enfants. Je suis professionnellement expert financier en assurance. J'ai commencé le triathlon à l'âge de 17 ans, jusqu'à maintenant encore 3 ans. Et puis, du coup, bah, j'avais aussi envie de goûter à d'autres efforts. Et du coup, on s'est mis au swimrun il y a 3 ans en fin de saison. Donc, on y reviendra après. Mais globalement, voilà pour me présenter.
Et donc, bonjour à tout le monde également. Nicolas Martin, 38 ans, enseignant d'EPS, marié avec 3 enfants. Donc moi, j'ai commencé le triathlon également un petit peu plus tôt que Jérémy, à l'âge de 13-14 ans, après avoir longuement pratiqué cette discipline et d'autres, je me suis tourné aussi un peu vers la course à pied, le marathon, quand mes enfants étaient en bas âge. C'est vrai que j'ai fait pas mal le tour de la question du triathlon. Et avec Jérémy, on avait un bon niveau national tous les deux en triathlon, duathlon. Et habitant dans la même ville, on s'est lancé ce défi du swimrun. Qui possède un certain nombre de valeurs communes. Et donc on avait envie de se lancer un défi autour du dépassement et des activités de pleine nature.
D'accord. Alors, la discipline du swimrun, comment vous la présentez comme ça? Parce que, bon, finalement, si on parle anglais, on sait qu'on parle de nage et de course, mais c'est un petit peu réducteur parce que finalement, il y a des spécificités qui sont vraiment dans cette discipline-là. Pour les gens qui connaissent le triathlon, ils voient qu'il y a des transitions, qu'on passe de l'un à l'autre, mais qu'on les enchaîne. Alors que le swimrun, on est dans une discipline où finalement, l'enchaînement, il est permanent. Alors, comment vous présentez le swimrun à quelqu'un qui ne le connaît pas du tout?
Effectivement, on est dans un enchaînement, mais sans modification du matériel utilisé. Donc, c'est-à-dire que du point de départ jusqu'au point d'arrivée, on a un équipement qui est identique. Et donc, finalement, de manière assez simple, on pourrait dire que c'est l'alternance de phases de course et de phases de nage en continu. Voilà. Donc, globalement, de manière assez simpliste, on doit se rendre d'un point A à un point B. En alternant dans un environnement finalement effectivement qui est l'environnement dans lequel on évolue, qui peut avoir des zones d'eau ou des zones où on peut courir et voilà et on alterne ces phases pendant voilà des distances qui peuvent varier en fonction des événements, mais globalement on pourrait le présenter comme ça.
La grande spécificité du swimrun, c'est de nager avec des chaussures et de courir avec une combinaison. Alors après, c'est vrai que c'est du matériel qui est adapté, c'est-à-dire que la combinaison est très fine, elle s'ouvre devant, derrière, sur pas mal de modèles, donc ça permet d'aérer et
De
de pas
ventiler.
avoir de problème au niveau de la ventilation, on va dire. Et de la même façon, on nage avec des chaussures, mais avec le matériel qu'on utilise, c'est-à-dire des pull-boys et des plaquettes, ça permet de compenser un peu éventuellement le fait d'avoir des chaussures, ça pourrait poser problème, mais le fait de mettre un pull-boy et des plaquettes, ça compense les différents déséquilibres qu'on peut avoir en natation avec l'utilisation du matériel de course à pied. Mais par contre, comme disait Jérémy, le matériel qu'on a au début, il faut l'emmener jusqu'à la fin. Donc le pull-boy et les plaquettes, eh bien, il faut les garder en course à pied et voilà.
D'ailleurs, j'ai vu dans les règlements de swimrun, parce que bon, les auditeurs le savent, hein, moi je suis inscrit à mon premier swimrun, j'ai trouvé un partenaire, on va faire une petite distance, parce qu'on va parler des distances après, parce que là aussi il y a des histoires de distance. On n'a pas le droit de se débarrasser du matériel, hein, après la dernière série ou quoi que ce soit, il faut arriver en fait au bout et tous les deux ensemble.
Exactement. Et tous les deux ensemble, alors effectivement, on parle d'un sport en binôme, hein, c'est l'origine de ce sport. Alors aujourd'hui, on commence à avoir des modifications avec un sport qui commence à être affilié à des fédérations, la possibilité sur certaines épreuves de pratiquer en solo. Mais si on en revient à l'origine et à l'ADN de ce sport, à qui nous a plu aussi, c'est justement à la différence d'un triathlon où on pratique seul. Alors on peut pratiquer sur des contre-la-montre par équipe aussi à plusieurs, ce qui donne un côté assez sympathique à ce sport qu'on a également pratiqué avec Nicolas dans la même équipe. Mais là, voilà, on est en duo, on est un binôme, on est partenaire. Du coup, on doit faire attention à son partenaire, on doit être à l'écoute. Pour en revenir au matériel, effectivement, Nicolas le disait tout à l'heure, il y a des règles. Et puis, de toute façon, en fait, on évolue dans un milieu naturel et on peut pas se débarrasser de choses parce que ça voudrait dire on va jeter un produit dans la nature. Et là, que ce soit effectivement le matériel qu'on utilise ou du coup aussi les produits énergétiques, il y a des réglementations assez strictes par rapport à ça, et on doit voilà être équipé de la même façon du début à la fin.
Ce qui engendre d'ailleurs des stratégies, parce que en termes d'équipement, en fonction de la température de l'eau, en fonction de la température extérieure, il va falloir avoir un matériel qui soit adapté à la fois pour la partie aquatique et à la fois pour la partie course à pied. Et c'est pas toujours évident de choisir le bon matériel pour être à l'aise sur l'ensemble de la course. Donc c'est vrai que il y a pas mal de choses intéressantes et on apprend beaucoup dans les premières années justement à mieux appréhender son matériel pour être le plus efficace possible en binôme.
Et donc, dans la caractéristique du binôme aussi, c'est qu'en fait, on est attaché par une... Alors, on appelle ça une longe ou une corde, je sais pas comment on va l'appeler, qui, là aussi, j'imagine, a une longueur réglementaire. Hein, même si j'ai vu, il y a des élastiques. C'est quoi la longueur de cette fameuse longe entre les deux?
Alors, en fait, la longe, elle n'est pas obligatoire. Et ça, effectivement, quand on regarde les fameuses images de Canal+ sur l'Otillo 2016, je crois, de mémoire, c'est quelque chose qui frappe en se disant bah, les partenaires sont attachés. Dans la plupart des épreuves, la longe n'est pas obligatoire et elle est même sur certains tronçons interdite. Notamment les premiers tronçons où ça peut être un peu dangereux parce que bah, vous avez un peloton de 150 équipes qui part. Et donc les gens peuvent s'en mêler, etc. Donc souvent les organisateurs interdisent l'utilisation de la longe sur les premiers tronçons. Après, il y a des tronçons également où l'environnement est assez dangereux, par exemple certaines sorties d'eau, etc. On a vu sur des épreuves, notamment au swimrun de Belle-Île, où la longe était interdite sur certains tronçons où l'organisateur jugeait que c'était trop dangereux. Maintenant, effectivement, c'est un outil. C'est un outil qui est autorisé dans la plupart des tronçons et qui est utilisé par bon nombre d'équipes. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on est deux, on a chacun ses qualités et ses faiblesses, en fait, soit dans un sport, soit dans l'autre. Et il est assez rare que finalement les deux partenaires du binôme aient un niveau identique dans les deux épreuves. Nous, on est assez mal placés pour en parler, parce qu'en fait on est un peu atypique dans le milieu du swimrun, en tout cas dans les équipes, on va dire, de premier rang, dans le sens où on n'utilise pas la longe. On n'utilise pas la longe, pourquoi? Parce que bah, jusqu'à présent on avait un niveau qui était à peu près similaire et qu'on trouvait finalement plus de désavantages et qu'on avait l'impression qu'on perdait plus de temps à l'utiliser que ne pas l'utiliser. Pour autant, comme disait Nicolas, on apprend au fur et à mesure, on apprend à courir en marchant, et du coup aujourd'hui c'est un gros sujet nous concernant, puisque on pense que on peut franchir un cap dans cette discipline en appréhendant mieux l'utilisation de cet outil.
Donc ouais, il y a vraiment en fait une stratégie. Moi, je pensais vraiment, c'est vrai qu'on parle de ces fameuses images de Canal+, on les voit les uns les autres, etc. Mais en fait, donc il y a une stratégie en fait dans cette histoire de longe, de savoir si on doit l'utiliser ou pas. C'est-à-dire que outre l'aspect réglementaire et puis l'aspect danger, hein, c'est vrai que moi j'ai vu le règlement au départ, elle n'y est pas, etc. On pourrait dire que c'est vraiment un outil qui va vous aider à être des à mieux courir en fait, à mieux nager,
à être plus homogène en fait, tout simplement. Comme disait Jérémy, si le binôme n'est pas tout à fait homogène en termes de capacité physique, que ce soit en natation ou en course à pied, ça permet d'homogénéiser. Et alors il y a surtout l'aspect sécuritaire aussi, parce que le fait d'avoir la longe, forcément, ça veut dire que les deux personnes ne vont pas s'éloigner. Et quand vous parliez d'une taille, il n'y a pas de taille, il n'y a pas de réglementation. Après, il y a la longe ne peut pas être trop longue, parce que sinon après on s'en mêle dedans, etc. Donc ça aussi c'est quelque chose qui se travaille à la fois pendant les phases d'entraînement, mais aussi en dehors, parce que il faut trouver la taille optimale à la fois pour la course à pied, pour la natation. et c'est pas la même taille. Donc ça veut dire que parfois il y a des équipes en fait qui vont diminuer la taille de la longe en fonction de l'épreuve pour que ce soit pour éviter d'être dérangé et pour que ce soit aussi optimal pour les deux. Et après il y a aussi dans les épreuves qui sont un peu plus longues, on peut très bien avoir des capacités légèrement supérieures à son binôme, mais après ce qu'il faut savoir aussi c'est que on n'est pas toujours en forme de la même façon et aussi à l'intérieur du swimrun, c'est-à-dire quand on fait des épreuves de 5-6 heures, eh ben on a des moments où on est un petit peu moins bon et donc effectivement cette longe peut permettre de pallier un petit déficit à un moment, un petit coup de moins bien. Donc c'est vrai que quand on peut, quand on appréhende bien ce matériel, je pense que ça peut être un petit plus.
On a parlé justement de longueur de la course. Sur quelle distance vous êtes engagé? Parce que là aussi, il y a des différentes distances, mais sur quelle distance vous courez, vous, en fait? Enfin, courez, nager, je ne sais pas comment on dit, en fait.
Ouais, en fait, je pense qu'il faut distinguer plusieurs épreuves. En fait, il faut distinguer les épreuves historiquement plutôt régionales, où là, de manière générale, on peut observer les épreuves entre guillemets longues qui se déroulent sur des temps d'à peu près 3 heures d'effort. Les épreuves qu'on va appeler de manche au tuyau, l'épreuve qualificative au championnat du monde au tuyau, hein, qui est une marque, hein, comme Ironman, hein, finalement, où là, on est sur des épreuves plutôt autour de 5 heures, entre 4 et 5 heures d'effort, hein, en fonction des courses. Et puis le Graal, hein, le Graal qui est le championnat du monde au tuyau à Luto en Suède, où là on est, ça dépend évidemment des coureurs, mais on est sur un effort plutôt de l'ordre de 10 heures, voire plus pour certains, mais voilà, entre 9 heures pour les premiers et puis 10-12 heures, voilà. Donc voilà, il y a vraiment ce distinguo, sachant qu'aujourd'hui c'est aussi un sport qui se démocratise puisqu'il y a de plus en plus d'événements et on a toujours en marge de ces épreuves dont on vient de parler sur lesquelles nous on se positionne, il y a toujours en marge de ces épreuves des épreuves de plus petite taille pour permettre aux gens de découvrir le sport. Donc c'est un peu comme en triathlon, vous avez les L et puis vous avez des distances M ou S. Là, aujourd'hui, par exemple, sur une course comme l'Otillo Cannes, ils vont proposer la manche Otillo, voilà, qui est ce que je viens de dire. Et puis en dessous, vous avez deux plus petites épreuves. Comme ça, tout le monde trouve son compte.
Alors, pour bien préciser, ça représente combien de kilomètres de course et combien de kilomètres de nage environ, on va dire, une manche Otillo, quoi.
Une manche au tuyau, donc comme disait Jérémy, nous le format au niveau des manches au tuyau, c'est principalement entre 4 heures et 5 heures. Donc ça dépend après du dénivelé, mais c'est souvent aux alentours de 30-35 kilomètres, on va dire, de trail en course à pied. Et en natation, on est souvent aux alentours de 6-7 kilomètres de natation en mer ou en lac. Donc pour ces épreuves de manche au kilo, après pour comme disait Jérémy, c'est important pour les gens qui découvrent les plus petites épreuves, ça peut commencer à 1,5 km de natation avec on va dire 8-9 km de course ou de trail, et après il y a des épreuves un petit peu intermédiaires où on va aller faire 3-4 km de natation avec on va dire 12, 13, 14 kilomètres de trail.
D'accord. Donc ça, oui, alors moi je le précise, hein, pour les auditeurs qui, parce que on s'était inscrit avec un copain sur une course, mais effectivement nous on est sur un petit format, hein, c'est 1,8 km de nage et puis 8-9 kilomètres de course.
Ouais,
voilà. Ce qui déjà pour moi me semble déjà pas mal par rapport à mon niveau de natation parce que je me suis remis à nager et c'est là où on va venir à l'entraînement parce que on a la vision du triathlon, on dit il y a beaucoup beaucoup d'entraînement, il y a beaucoup de gens qui ont peur du triathlon parce qu'ils disent qu'il y a beaucoup de volume d'entraînement. J'ai envie de dire, là on enlève un sport, mais est-ce que ça diminue le temps d'entraînement, ou est-ce que finalement la caractéristique du sport rajoute des choses d'entraînement qui sont enfin, je parle du temps, mais aussi de nouvelles choses que vous connaissiez peut-être pas avant quand vous faisiez principalement du triathlon.
Bon, c'est un sujet qui est un peu compliqué dans le sens où en fait on sait que l'entraînement c'est quelque chose qui est individualisé, individuel. Mmh. C'est-à-dire que deux individus qui vont faire la même performance ne vont pas forcément s'entraîner de la même façon. Après, globalement, ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, dans le triathlon, on a la discipline qui est le vélo, et le vélo, il est difficile de s'entraîner sans sortir deux heures. Donc, si vous placez deux, trois entraînements de vélo dans la semaine, ce qui est à peu près le rythme pour un triathlète moyen, évidemment, vous allez vous retrouver entre 6 heures et 10 heures de vélo. Donc, effectivement, le swimrun, il a un double avantage. C'est un, financier. Pour celui qui le pratique, c'est qu'il n'a pas forcément besoin d'acheter un vélo, et on sait que comment ça coûte cher. Et puis deux, il s'économise effectivement ce temps de pratique du vélo, même si, et il faut pas se mentir, le vélo est un sport extrêmement intéressant, et notamment dans la complémentarité avec la course à pied. Et nous, aujourd'hui, on continue à faire du vélo, mais dans des proportions moindres que ce qu'on pouvait faire avant. Donc, pour synthétiser, voilà. Après, quand on veut performer dans un sport, le gars qui fait du tennis, il fait que du tennis, mais il peut s'entraîner 20 heures dans la semaine. Donc là, c'est à chacun de placer son curseur en fait en fonction de ses envies, de ses disponibilités et de ses motivations et de ses objectifs pour calibrer comment il va placer son entraînement. Est-ce qu'il décide de nager deux fois, trois fois par semaine, est-ce que ça suffit pour lui pour se faire plaisir à l'entraînement et faire le résultat qu'il souhaite, ou est-ce qu'il juge qu'il va, vu que la natation c'est un des deux sports, il faut qu'il nage tous les jours. Donc ça, c'est à chacun après de définir, de placer un petit peu le curseur en fonction de ces différents paramètres.
Et oui, parce qu'on l'a dit quand même, c'est que vous avez un métier, vous êtes parent, donc j'imagine que les journées quand même, on cale les entraînements sur ces différents sports, ça doit être quand même assez bien rempli, hein, parce que pour arriver à nager 6, 7, 8 kilomètres, le volume d'entraînement en natation, je pense, doit être quand même conséquent dans une semaine.
Et c'est vrai que la natation, ça reste c'est un petit peu moins chronophage que le vélo, mais ça reste une activité qui demande du temps, dans le sens où il faut aller jusqu'à la piscine, se changer. Donc c'est beaucoup de temps passé déjà rien que sans faire l'entraînement. Après ça demande une certaine organisation. C'est vrai que par rapport à la vie de famille, on essaie de faire en sorte que ce temps d'entraînement soit réparti ou soit utilisé en dehors des moments avec la famille. Et c'est vrai que parfois il faut s'entraîner soit le matin de bonne heure, soit le soir tard. Et après, il y a aussi le temps du midi qui est un temps qu'on utilise beaucoup, Jérémy et moi, parce que on sait très bien que ça va nous permettre de nous entraîner correctement et sans avoir d'impact sur notre vie familiale. Après, la course à pied, je crois que c'est vraiment l'idéal en termes d'entraînement. C'est la course à pied, c'est un short, une paire de baskets, un t-shirt, et parfois on peut même partir de son entreprise si on a la chance d'avoir une douche au travail. Et c'est vrai que ça demande pas beaucoup de temps, 45 minutes à une heure suivi de, on va dire, 10 minutes de douche. C'est vrai que c'est assez facile à caser.
Oui, et puis en plus dans la piscine, alors peut-être vous, si vous êtes en club de triathlon, j'imagine, vous avez peut-être des horaires d'ouverture de piscine un peu particuliers, etc. Mais à midi, moi je regardais les horaires de ma piscine, je me dis il y a des moments où elle est fermée, réservée aux scolaires, etc. Donc il y a des créneaux, alors qu'en course à pied, si je veux partir un matin à la frontale, je peux le faire. La piscine, il y a un moment donné, sauf avoir un couloir de nage dans son jardin, il y a un moment donné, on est aussi bloqué par des contraintes de notre environnement, quoi, j'ai envie de dire.
Tout à fait. Ouais, non, mais c'est un vrai sujet. Alors effectivement, nous, on est dans un club de triathlon et on peut utiliser ces fameux créneaux clubs. Hein. Aujourd'hui, on a quand même une difficulté parce que le swimrun, c'est quand même une certaine spécificité et nécessite des entraînements particuliers. Donc en phase hivernale, finalement, on fait l'entraînement de comme les autres triathlètes. Hein. On s'adapte. Et puis, arrivé à un moment dans la saison, on essaye de travailler les spécificités. Donc nous, on habite à Rennes, on est à peu près à une petite heure de la mer. Donc parfois, on fait le sacrifice, effectivement, le soir, de se dire, on prend la voiture et on va essayer de nager en mer, ou alors à un étang qui est pas trop loin. Donc voilà. Mais effectivement, quelqu'un qui a un environnement privilégié, avec soit il a un couloir de nage, soit il a la mer à côté de chez lui, ça facilite l'entraînement.
Alors, c'est intéressant justement de dire, bon, on va à la mer, etc. Parce qu'il faut travailler donc la nage mer ou lac, on l'a dit. Hein, c'est, mais en tout cas, c'est de l'eau vive, l'eau libre systématiquement. Hein, j'imagine pas de passer de piscine, avoir des épreuves. On est vraiment en pleine nature. Et des parcours qui sont trail, hein, c'est ce qu'on a dit, on est plutôt dans du trail. Donc ce qui veut dire quand même que c'est sur les terrains d'entraînement, faut quand même trouver, alors j'imagine, est-ce que vous faites des stages, des choses comme ça, pour arriver à travailler à la fois la caractéristique du trail, où il y a, je pense, il y aura des épreuves où il y a quand même du dénivelé, il y a des passages techniques, des choses comme ça. Pour moi qui fais du trail, je vois que des fois, bah, on a des passages plus techniques que d'autres. Donc comment vous arrivez finalement, est-ce qu'il y a des moments où vous travaillez plus un sport que l'autre, comment vous arrivez à gérer cet entraînement en fait?
Cet entraînement, il est principalement effectué, comme disait Jérémy, sur des temps où on a un petit peu plus de temps, c'est-à-dire soit le week-end, soit pendant les vacances, et comme disait Jérémy, proche de la saison, parce que la spécificité, on la travaille plus à l'approche des compétitions. Donc l'hiver, on fait plutôt du volume et on travaille au niveau aérobie, en natation et en course à pied. Lorsqu'arrive la saison, on va essayer de travailler cette spécificité du swim run. Donc, comme disait Jérémy, on a la chance d'être pas très très loin de la mer. Alors après, on n'a pas un gros dénivelé, mais on a des côtes qui sont assez sympathiques au niveau du nord de l'Ille-et-Vilaine et des côtes d'Armor. Où il y a un petit peu de dénivelé positif, donc on profite de ces endroits pour travailler à la fois la spécificité de la natation en eau libre et un petit peu de dénivelé. Après, c'est vrai que par rapport à votre question, par contre, si on prépare des épreuves type montagne, et ben là on est vraiment assez restreint dans notre entraînement, et là c'est compliqué de travailler la spécificité de dénivelé vraiment très 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 important.
Une question que je me pose, c'est est-ce que vous travaillez les transitions, c'est-à-dire passer de l'un à l'autre, ou est-ce que finalement c'est des choses qui se travaillent plus en course parce qu'à chaque fois c'est changeant, ou est-ce qu'il y a un entraînement de passer de l'un à l'autre, d'enchaîner le passage de la course à la nage, etc.?
En fait, dans nos entraînements, donc il y a soit des entraînements que natation, des entraînements que course à pied, mais il y a aussi des entraînements qui sont des entraînements swimrun. On va faire des sessions swimrun, et donc là, par la force des choses, on va finalement travailler ces transitions qui sont les moments de mise à l'eau et les moments de sortie d'eau. Voilà. Donc bon, après, le swimrun est un sport assez jeune, le matériel a évolué. Il y a 2-3 ans, les techniques de port de pool boy étaient différentes de celles qu'on voit aujourd'hui. Donc nous, on a commencé le sport en pareil comme tout le monde, en regardant comment font les athlètes, les premiers athlètes, et puis après ça évolue, soit par rapport à nos sensations, soit par rapport à des idées géniales que peuvent avoir certains. Donc là, aujourd'hui, c'est un peu stabilisé, hein. Tout le monde est à peu près sur le même schéma. Qui est assez simple, on pourrait y revenir après, mais oui, ça se travaille un peu. Après, c'est pas un travail aussi important que ce qu'on peut faire en triathlon quand on est jeune, vraiment les descentes de vélo, les montées sur le vélo. Là, c'est des secondes, le changement, où là, c'est vraiment des secondes importantes dans un triathlon qui joue sur le résultat finalement.
Après, c'est vrai que nous, on vient du triathlon, on a énormément travaillé les transitions, maintenant c'est devenu naturel pour nous de passer d'une activité à l'autre. Après, je conseillerais à des gens qui débutent de vraiment travailler cette transition, passer d'un équilibre horizontal à un équilibre vertical. C'est quelque chose qui peut être traumatisant physiologiquement, et donc ça se travaille vraiment, nous c'est devenu naturel, donc on n'a plus besoin de le travailler énormément. Mais c'est vrai que pour des personnes qui vont découvrir, c'est vraiment un aspect à travailler avant la compétition, parce que sinon ça peut faire bizarre un petit peu les premières fois.
On parlait d'Otilo parce que finalement on tourne un petit peu autour. Comment on se qualifie pour ces fameux championnats du monde? C'est quoi le processus pour arriver? Il y a des points, il y a des courses, il faut faire des classements, des positions. Ça marche comment, hein? Voilà, on dit, j'ai envie un jour d'être qualifié pour ces fameux championnats du monde. Comment, quel est le projet? Sur combien de temps vous préparez ça pour arriver justement à vous dire, on va pouvoir faire cette course-là?
Ouais, bon, en fait, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que ça a évolué, hein, comme le sport a évolué, le nombre de pratiquants a fortement augmenté. Donc, ce qu'il faut se dire, c'est qu'aujourd'hui, si on discute avec certaines personnes, vous pouvez rencontrer des gens qui ont fait l'OTIO il y a 3-4 ans et qui finalement n'ont pas vécu la même chose que nous pour nous qualifier. Nous, il y a 2 ans, quand on a commencé, il y a 3 ans vraiment en fin de saison pour se faire la main, pour voir si ça nous plaisait. À l'échelle régionale, on a fait 3 courses, on a fait 3 victoires, et là on s'est dit ça nous plaît. Donc objectif, on essaye de se qualifier l'année prochaine. Et donc on s'est renseigné, hein, les règles elles sont inscrites en fait sur le site de Tio. Donc il est écrit finalement qu'il y a un ranking, il y a un ranking mondial, donc un classement, hein. À chaque épreuve que vous participez, vous allez marquer des points. Et à un moment dans la saison, en fait, ils vont faire un cut-off, ils vont regarder, ils vont dire, bah, on prend je crois, c'est les 50 premières équipes, quelque chose comme ça. Voilà. Donc ça, c'est une façon de se qualifier. Et puis la deuxième principale façon de se qualifier, c'est de faire un podium sur une manche au tuyau. Voilà. Et puis après, pour ceux qui ont la chance d'être des VIP, bah là, eux, ils sont invités. Donc là, sur des gens connus comme bah, ceux qu'on a vus dans le reportage dont on parlait tout à l'heure, par exemple Cédric Florent et Davidos, eux, ils n'ont rien fait comme course qualificative. On les a invités parce que, bah, notamment Davidos, il était 4e aux Jeux Olympiques. Cédric Florent, il a dû faire un podium au championnat du monde. Donc bien évidemment que c'est intéressant d'avoir des athlètes de ce niveau-là sur un départ de course d'un championnat du monde. Donc voilà. Après, nous, la première année, on s'était dit, on essaye parce que ça a un coût tout ça. Hein, il faut se déplacer sur ces événements qui sont dans des endroits magnifiques dans toute l'Europe, mais qui sont un peu loin parfois. Donc on s'était dit, on va essayer de faire la manche d'Engadine en Suisse, près de Saint-Moritz. Et puis au final, bah ça a été compliqué. On n'a pas réussi à se qualifier sur cette course-là. Et pour dire, on n'a même pas réussi à finir la course. On a eu un imprévu de santé sur cette course-là. Et après, on est parti sur une démarche bah, plus classique de se dire on va marquer des points. Et dans cette démarche, en fait, on a eu la chance d'accéder à une qualification directe à travers finalement une 3e place sur la course de Malte. Donc on a un peu tout vécu. En fait, on était un peu bancal entre voilà, être dans les top équipes qui pourraient accéder à la qualif sur un podium et aussi assurer le coup à travers le ranking. Et on s'est aperçu que le ranking, c'est compliqué parce qu'en fait, il y a des gens qui font beaucoup, beaucoup de courses, qui font toutes les courses. Donc forcément, ils vont marquer des points à toutes les courses. Et ces gens-là, bah, on est en concurrence avec eux. Même nous, on fait que 2 courses, par exemple. On va faire peut-être un peu plus de points parce qu'on est plus haut dans le classement, mais bah, on est en concurrence avec eux. Donc voilà.
Ouais. Et donc c'est là où aussi où il y a des questions de budget, parce que s'il faut aller faire des courses dans toute l'Europe, j'imagine que ça va coûter cher l'histoire. Finalement, on disait il y a pas de vélo à payer, mais finalement ça fait des voyages, des coûts pour aller à droite à gauche pour participer à ces courses. Puis j'imagine aussi qu'il y a des frais d'inscription à ces courses-là qui sont peut-être pas donnés, hein.
Oui, après, c'est vrai que la course de l'Othello, championnat du monde, c'est le Graal, mais il y a plein de courses intéressantes aujourd'hui. Le swimrun s'est énormément démocratisé, et notamment en France. Je pense que c'est un des pays européens, après les pays nordiques, qui a vu exploser le swimrun à l'intérieur de ces terres. Et il y a plein de courses intéressantes. Il y en a dans les gorges du Verdon. Il y avait un swimrun l'année dernière à Belle-Île, à Crozon. Donc il y a vraiment des endroits magnifiques. Et voilà, aller toucher le Graal, c'est bien, mais il y a aussi déjà de très 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 belles épreuves en France. Et donc il n'y a pas forcément non plus besoin d'aller forcément en Suède pour voir des beaux swimruns.
Vous avez dit que vous étiez qualifié pour l'édition de quelle année en fait, Otilo?
Eh ben pour l'édition 2020, et qui devait avoir lieu le 31 août, donc c'est-à-dire dans quelques jours. Et on a malheureusement appris il y a un petit peu moins d'un mois que l'édition 2020 serait annulée. Donc on a mis énormément d'énergie à la fin de saison 2019 pour nous qualifier. On était vraiment très contents et fiers de nous d'avoir décroché à Malte notre qualification directe pour l'Othello. Et malheureusement, on a eu une belle déception il y a un petit peu moins d'un mois en apprenant que l'édition 2020 serait annulée. Donc ça veut dire repartir quasiment à zéro pour l'édition 2021. Voilà. Donc bon, après maintenant il y a des choses plus importantes en ce moment que l'Otilo, mais c'est vrai que ça a été quand même une déception parce que pendant tout le confinement, on a fait de gros efforts pour se préparer. Les organisateurs nous ont dit qu'ils feraient tout pour maintenir cette épreuve, et malheureusement, les autorités suédoises ont décidé d'annuler cette épreuve. Et donc, voilà, ça a été une déception fin juillet. Maintenant, on a décidé avec Jérémy de repartir pour l'aventure Otilo en 2021. Et donc, on va tout faire pour se qualifier assez rapidement. Il faudra à nouveau en 2021 se préparer pour l'édition 2021.
On n'a pas parlé de budget, mais j'ai vu dans un article, hein, on parlait d'un budget environ 3000 euros pour participer à la course. C'est ce que vous avez quand vous cherchez des sponsors, des soutiens, des choses comme ça. Comment vous marchez? Vous avez une équipe, une petite team? Vous avez des sponsors qui vous aident à faire ça? Comment vous êtes organisé là-dessus?
En fait, on a essayé de créer. En fait, notre team, c'est nous. Donc, on s'appelle NJ Swimrun. Donc, N pour Nicolas, J pour Jérémy. Et on a essayé de faire comme si on était une équipe. Donc, un peu professionnaliser la chose, on va dire. En tout cas, de la rendre sérieuse. Donc, on a un équipement. On a un peu de visibilité sur les réseaux sociaux. En tout cas, on essaye de faire partager les gens qui nous suivent sur nos aventures. Hein, on va appeler ça comme ça. Et effectivement, on l'a dit tout à l'heure, on a nos familles, donc on veut pas non plus, consacrer trop de moyens financiers dans ce sport au détriment des autres choses qu'on pourrait faire pour la famille. Donc on s'est engagé dès le début, quand on était dans l'objectif Otilo, à essayer de trouver des partenaires qui pouvaient nous accompagner dans cet objectif. L'année dernière, on avait principalement deux sociétés ou trois sociétés qui nous ont suivis, des sociétés locales. Alors après, c'est le réseau hein, qui fonctionne, des gens qui sont notamment des chefs d'entreprise de notre club de triathlon ou des employeurs de personnes qu'on peut connaître. Donc voilà, l'année dernière, on avait un budget de l'ordre de 5000 euros au total. Qui nous a permis de faire la manche de Cannes, la manche de Malte, la manche de Suisse, donc quand même trois beaux déplacements, plus les petites compétitions régionales. Et ensuite, avec cette qualification pour le championnat du monde, sachant que le dossard coûte déjà à peu près 1300 euros hein, pour le championnat du monde, donc là forcément le budget il explose. Et donc on était parti sur une enveloppe budgétaire d'environ 10 000 euros cette année pour faire pour financer toute notre saison. On a eu la chance de trouver des partenaires qui nous accompagnent cette année. C'était vraiment presque professionnel, dans le sens où on a eu un partenaire d'équipement qu'on n'avait pas avant. Donc là, une super aventure aussi avec une société avec qui on est en train de développer un produit, donc une société qui s'appelle Squall, où on est en train de mettre sur le marché. Hein. Enfin, c'est la société qui le fait, mais on l'a accompagné dans le développement produit, donc une combinaison de swimrun. Après, un partenaire au niveau énergétique, produit énergétique, parce que c'est extrêmement important aussi sur des courses longues, la partie diététique, on pourra y revenir plus tard. Et puis au niveau financier, donc là je cite Apurna hein, du groupe Lactalis, donc qui nous a accompagnés. Et puis au niveau financier, mon employeur, société Equad, donc société d'expertise en assurance, qui a aussi adhéré au projet sur ses valeurs hein, principalement, pas sur le simple fait que je sois un salarié de l'entreprise, mais vraiment sur les valeurs que peuvent dégager le swimrun et comment on peut s'y rattraper dans le milieu de l'entreprise. Hein. On peut vraiment se rapprocher, le dépassement de soi, la solidarité. Voilà, donc tout ça fait que effectivement on avait un budget pour cette saison 2020, qu'on va reporter en partie pour 2021.
Moi, j'ai une question sur les points. Finalement, les points que vous avez marqués cette année ne servent à rien pour l'an prochain. Ils ne vous ont pas fait un report de points, de qualification. Il faut tout reprendre à zéro, en fait.
C'est pour ça qu'à un moment, j'ai dit quasiment à zéro, parce que bon, c'est un débat. Il y a eu un débat sur les réseaux sociaux. il y a certains concurrents qui n'étaient pas très contents. En fait, lorsqu'on marque des points sur une manche au kilo ou sur une mérite race, en fait, c'est une épreuve. Il y en a un petit peu partout dans le monde. Il y en a même au Brésil, aux États-Unis. C'est des épreuves qui sont, on va dire, labellisées par la marque Otilo. C'est des épreuves qui ont fait leur preuve en termes de qualité et d'organisation. Et sur ces manches, en fait, on peut marquer uniquement des points. C'est-à-dire qu'on peut pas se qualifier directement. Donc il y a des points, on peut en marquer sur les Merit Race et sur les manches Otilo. Et donc ces points valent 100% la première année, et à partir de la deuxième année, ils valent 25%. Donc c'est vrai que à la fin de l'année, on aura encore nos points de l'année dernière. Là, on vient de terminer la semaine dernière une Merit Race où on va marquer un grand nombre de points. Voilà, maintenant cette année elle est très compliquée, donc avec le Covid il y aura eu peu d'épreuves au final, donc on ne sait pas du tout vers où on va, alors que les autres années on savait qu'avec un certain nombre de points ça permettait de se qualifier. Cette année ça va être très compliqué parce qu'il y a beaucoup de manches qui ont été annulées, donc voilà, on pense encore aller faire une épreuve avec Jérémy d'ici la fin de la saison pour pouvoir nous qualifier d'ici la fin de la saison et pour pouvoir aborder sereinement la préparation au championnat du monde de 2021 l'année prochaine.
Alors, je précise, hein, je mettrai les liens dans les notes d'épisode, mais vous avez un compte, une page Facebook, vous avez un compte Instagram, donc je mettrai tous les liens pour qu'on puisse vous suivre dans vos aventures. Maintenant, il y a quand même la question dont moi, le premier, je me dis, bon, comment on se lance dans dans ce sport, hein, voilà. Alors, on va essayer, il y a tellement de sujets à aborder que je ne sais pas trop comment faire, donc on va essayer de faire des réponses assez courtes. Sur le finalement quelqu'un qui veut se lancer, on a dit hein, c'est normalement c'est en duo quand même, donc on dit qu'il y a des épreuves solo qui commencent à arriver, mais si je fais pas partie d'un club de triathlon, si je fais pas partie d'un club, comment je fais pour trouver un partenaire si voilà, je sais pas trop, vous êtes trouvé parce que vous entendez bien j'imagine, mais comment on fait sinon?
Alors sur les épreuves, sur beaucoup d'épreuves maintenant, c'est un peu comme le covoiturage. On propose, c'est vrai que le swimrun, il y a la notion de développement durable qui est important, tout ce qui est respect de l'environnement, etc. Donc tout le covoiturage est mis en place, mais il y a une autre chose qui est mise en place, c'est la recherche de partenaires. Et lorsqu'on a envie de faire une épreuve, on peut tout simplement aller sur le site de l'organisation et trouver des partenaires assez facilement en envoyant des messages par l'intermédiaire du site de l'organisation. Donc ça se trouve assez facilement et voilà.
Sur les réseaux aussi, vous avez notamment sur Facebook où il y a un blog aussi, une communauté, hein, Swimrun France, où il y a plein de sujets intéressants sur le swimrun pour les gens qui débutent. Et puis aussi, vous voyez, cet été, moi, je voyais ça, des gens qui partaient en vacances dans une région, qui mettaient un petit post, je suis en vacances en Vendée, est-ce qu'il y a du monde pour faire une session swimrun? Voilà, donc c'est vrai que les réseaux sociaux, pour ça, c'est assez sympa. Et puis, moi, ce que je préconise aussi, alors, c'est sûr, dans son entourage, hein, je pense qu'on a des gens qu'on... Voilà, on se dit bah tiens, il fait peut-être pas trop de sport, mais peut-être que ça le tenterait aussi. Donc de se lancer. En fait, le swimrun c'est un peu une aventure parce que ce qui est sympa, c'est de se dire waouh, ce truc là, j'ai 10 tronçons, j'ai 20 kilomètres, mais peu importe où on met le curseur, mais chacun peut trouver son petit dépassement, son objectif. Voilà. Mmh. Et c'est le côté je me lance dans l'aventure. Et donc je pense qu'en famille aussi, avec un frère, avec une sœur, avec un père, avec une mère, tout ça c'est des sujets à creuser quoi. Ça peut être super sympa.
Ouais. Alors moi j'ai quand même une question qui se pose parce qu'on est des êtres humains et peut-être dans l'effort des fois il y a des gens qui deviennent plus ou moins irritables dans l'effort, plus ou moins sympathiques. Vous voyez un petit peu les choses comme ça. Je vais pas vous demander si parfois vous engueulez quand vous courez, quand vous nagez, si parfois vous avez des désaccords en disant allez avance, tu traînes ou quoi que ce soit. Moi j'ai prévenu mon partenaire que en nageant peut-être qu'il fallait qu'il me tire avec la fameuse longe, donc je l'ai déjà prévenu, il le sait. Hein. Ça vous arrive des fois je dis pas de vous engueuler, mais de pas être vraiment d'accord, de dire il y en a un. Comment ça se passe les relations humaines dans une course où on est forcément à deux, puisqu'il faut arriver tous les deux en même temps à quelques mètres d'écart.
C'est hyper important. Je pense qu'à chaque début de course, que ça soit Nico ou moi, on se dit on se parle. On se parle, on communique. La communication, c'est hyper important. Après, là où tu as raison, c'est que communiquer quand on est hyper à l'aise, qu'on n'est pas en train de faire un effort, et communiquer quand on est dans le mal au bout de 4 heures d'effort, on n'est plus le même communicant. Et donc, ça, bah, on l'apprend aussi au fur et à mesure des épreuves, parce qu'on sait comment son partenaire y réagit, etc. Mais ça prend du temps. Après, par rapport à l'exemple que tu disais, je pense qu'on n'a jamais été, nous, dans le « tu te traînes ». Par contre, on est plutôt dans l'inverse, c'est « tu vas trop vite pour moi ». C'est-à-dire, Nico, tu dis si je me trompe, mais je pense qu'à aucun moment, sur aucune des épreuves qu'on a fait, on a dit à l'autre « tu te traînes ». Par contre, à plusieurs reprises, et encore ce week-end, que ça soit dans un sens ou dans l'autre, moi, j'ai dit à Nico « ça va trop vite pour moi en nageant », et lui, il m'a dit « ça va trop vite pour moi en courant ». Et on ajuste, hein, en fait, voilà. Et après, on n'a pas toujours sur le même, on n'est pas toujours sur le même état d'esprit, parce que quand on est bien, on se rend pas compte, en fait. On se dit, bah ouais, mais moi là, voilà. Mais bon, on échange, hein, on communique.
Est-ce que d'ailleurs, il faut que vous soyez complémentaires, c'est-à-dire qu'il y en a un qui soit meilleur nageur, l'autre qui soit meilleur coureur, ou est-ce que finalement, c'est, vous avez dit, vous êtes à peu près de nageur-coureur tous les deux, donc est-ce que ça serait important qu'il y en a un qui soit meilleur dans une discipline que l'autre, ou?
Dans l'idéal, en fait, il faut être le plus homogène possible. Pour être le plus performant possible, il faut être le plus homogène possible. Et nos meilleures épreuves, c'est quand on était au top tous les deux et que on, en termes d'état de forme, ça, c'est pas facile déjà d'avoir une personne dans un état de forme optimal. Donc deux personnes, c'est encore plus compliqué. Et si le binôme peut être homogène en termes d'efficacité et de performance, c'est mieux. Voilà, donc c'est vrai que nous, c'est notre force depuis le début, c'est d'être relativement homogène. Alors parfois, il y en a un qui est un petit peu plus fort en natation, l'autre un petit peu plus fort en course à pied. Mais nos meilleures performances, parce que on a réussi à sur deux ou trois épreuves à vraiment tirer le maximum et être proche de choses vraiment bien en termes d'efficacité, c'est quand on était tous les deux homogènes, qu'on arrivait à suivre en natation et que on arrivait à courir quasiment de la même façon, c'est-à-dire à la même vitesse. Et c'est pour ça que aussi qu'on a retardé l'échéance de l'utilisation de la longe, parce que on s'est rendu compte sur nos premiers swimruns qu'on arrivait à faire 100 et à être vraiment homogène. Après, bah, y a des jours où quand ça va moins bien, et ben, l'utilisation de la longe permettrait d'améliorer les capacités du jour, on va dire.
Alors, on va continuer un petit peu pour l'aspect on se lance, etc. Il y a un côté matériel quand même qui est important. Hein. On a parlé de la combinaison que vous travaillez avec quelqu'un qui développe, une marque qui développe des combinaisons de swimrun. C'est pas une combinaison de natation, c'est pas une combinaison de triathlon, c'est vraiment des combinaisons maintenant qui sont faites spécialement pour la discipline.
Oui, c'est vraiment un aspect très, très, très important. Aujourd'hui, les combinaisons, elles sont de swimrun, elles sont très spécifiques. La plupart d'entre elles s'ouvrent devant et derrière pour assurer une bonne ventilation en course à pied. Et lorsqu'on ferme, en fait, ça vient gainer et donc avoir une bonne performance sur le milieu aquatique. Et aussi, on recherche donc le néoprène et en termes de d'épaisseur est moins important qu'une combinaison de triathlon, et on a un néoprène qui peut être légèrement différent aussi sur notamment sur les jambes, avec on n'a pas besoin d'avoir un néoprène d'une aussi grande qualité au niveau des jambes, et on a besoin de plus de souplesse au niveau du membre inférieur et d'élasticité pour la performance en natation au niveau du membre supérieur.
Après l'autre passage, alors les chaussures, les fameuses chaussures, on a dit on nage avec les chaussures, et est-ce qu'il y a des chaussures spéciales, est-ce qu'il y a des marques qui ont des chaussures spéciales, est-ce qu'il y a des modèles ou est-ce que finalement on prend sa paire classique et puis on fait des trous dans la semelle et puis ça marche pareil?
Alors juste je rebondis sur la combinaison. Un autre point quand même important de la combinaison, c'est aussi les poches que vous retrouvez pas sur les autres combinaisons de natation ou de triathlon. Parce que là, en fait, on est en autonomie quasiment, hein, sur les épreuves. Et donc, c'est bien de pouvoir mettre des gels, de pouvoir mettre aussi des choses qui sont obligatoires comme un sifflet, comme une couverture de survie. Donc ça, c'est important. Et aussi sur les combinaisons, il y a différents modèles. Il y a des modèles qui sont avec manches, des modèles qui sont sans manches et avec des manchettes. Et donc finalement, comme le disait Nicolas, il n'y a pas un swimrun pareil, parce qu'il y a des swimruns où l'eau elle est à 23 degrés comme on l'a vécu la semaine dernière, puis il y a des swimruns où l'eau elle est à 10 degrés comme on l'a vécu l'année dernière en Suisse. Et donc vous n'allez pas vous habiller de la même façon. Alors l'idéal, c'est celui qui a toute la garde-robe, hein, c'est comme madame, et malheureusement bah ça coûte cher. Donc du coup il faut trouver le produit qui nous va bien. Et en lien avec cette combinaison, ce qu'on peut avoir, c'est des petits tops qu'on met en dessous de la combinaison, donc ont une double utilité. Certains qui ont une utilité thermique, donc pour aussi garder la chaleur, et aussi une utilité justement de rangement pour pouvoir mettre les lunettes, pour pouvoir mettre le bonnet. Par exemple, sur ce week-end, sur le dernier tronçon, il était très long, on a couru pendant plus d'une heure, on n'avait plus besoin des lunettes et du bonnet, ben on les glisse dans des poches. Et du coup, ça permet de ventiler mieux au niveau de la tête et d'être moins compressé avec les lunettes et tout. Donc ça, voilà, c'est un petit plus aussi et une petite particularité dans l'équipement. Pour ce qui est des chaussures, nous, on a commencé avec des chaussures spécifiques qui s'appelaient Icebug parce qu'on nous avait proposé et conseillé ces chaussures. On n'y connaissait rien, donc grosse accroche, principalement, voilà, particularité accroche et évacuation de l'eau. Donc là, c'était top. Par contre, point de faiblesse de ces produits, l'amorti et la stabilité. Aujourd'hui, on en est revenu. On est sur des modèles de trail. Par contre, on n'est pas encore peut-être à notre optimum parce que, mais on va y venir. De toute façon, il y a des marques qui vont développer des produits spécifiques. Mais par exemple, un exemple, c'est la languette de la chaussure. Il faut qu'elle soit la plus fine possible parce que vous avez des chaussures. C'est bien pour courir, la languette elle est épaisse, ça protège du coup l'avant du pied. Par contre, si vous avez ça, bah en fait ça va se gorger d'eau et la chaussure elle va garder l'eau et du coup vous allez courir et ça va faire plouf plouf plouf. Donc là l'idée c'est d'avoir voilà si possible des chaussures qui ont un mesh aéré, donc qui évacue l'eau, et puis cette fameuse semelle à l'avant de la chaussure qui soit le plus fine possible pour qu'elle ne garde pas l'eau. Voilà.
Par curiosité, vous courez avec quoi comme marque de chaussures?
Bah, cette année, on a en phase d'entraînement, on a testé. Alors Nicolas, il est chez Brooks à l'entraînement et moi également. On en est très satisfait. On a failli partir sur la saison là-dessus tous les deux et aujourd'hui Nicolas est encore sur Brooks et moi là, je viens de tester un nouveau modèle chez Oka, la Torrent 2 là qui vient de sortir. Et honnêtement, très bon produit. Après, comme je disais, je pense que c'est pas encore l'optimum parce que la semaine elle est un peu épaisse. Voilà, donc après c'est à chacun hein, comme on dit, trouver chaussures à son pied hein. Il faut pas non plus il y a des chaussures qui peuvent être très bien pour le swimrun, mais enfin si vous avez des ampoules dedans parce qu'elles conviennent pas à votre forme du pied, c'est pas la peine non plus. Donc voilà, faut tester et puis je pense que le jour où vous trouvez le bon modèle, bah, faut la garder.
Ensuite, alors on a dit on court avec le bonnet, les lunettes, etc. Donc ça veut dire que vous perdez pas le temps à l'enlever hein, sur les petites sections, le bonnet, vous le gardez toute la course?
Ouais, le bonnet, les lunettes, en fait, le bonnet il est sur la tête sur un grand nombre d'épreuves. Après, c'est vrai que quand comme disait Jérémy tout à l'heure, lorsque les parties course à pied peuvent être s'allonger, on a tendance à les enlever et à les mettre dans les poches soit du top, soit dans les poches de la combinaison. Et les lunettes, en fait, on les met juste au-dessus, sur le front, tout simplement. Mais c'est vrai que c'est pas quelque chose qui nous gêne. Dans un premier temps, quand on a découvert ce sport, on se disait, mais comment on va faire pour courir avec une combinaison? Et en fait, c'est très naturel. Et avec un bon matériel, on n'est vraiment pas gêné. À aucun moment, on se dit tiens, oui, j'ai mon bonnet qui me gêne. Non, il est sur la tête. Après, si vraiment il y a des grosses chaleurs, je pense que les gens l'enlèvent assez facilement. Mais quand la température est clémente et quand les différents formats de course à pied, natation s'enchaînent, on n'a pas le temps d'avoir chaud et donc on le laisse tout simplement sur le front et les lunettes par-dessus. Comme ça, dès qu'on arrive sur la natation suivante, hop, on a juste à remonter les fermetures avant et arrière si on a les deux, hop, et juste à glisser les lunettes mettre les plaquettes qui sont déjà sur les mains. Alors, il y a une façon aussi, c'est une stratégie, c'est de mettre la plaquette au dos de la main pour pouvoir, si jamais on a besoin d'utiliser les mains. Et c'est moins embêtant que de les garder au niveau de la paume de la main. Et donc, tout ça, ça se fait assez naturellement quand on rentre dans l'eau. Il faut que ce soit assez rapide pour, si jamais on a des équipes autour de nous, pour bien rester dans le groupe ou dans les pieds des personnes qui sont autour de nous. Donc, ça, c'est pareil, ça se travaille un peu.
Et mon futur coéquipier, hein, que j'ai jamais vu, enfin, on se connaît à distance, m'avait glissé une question. Il m'a dit, mais qu'est-ce qu'on fait du pool boy quand on court?
Eh ben, le pool boy, c'est pareil. Comme disait Jérémy tout à l'heure, il y a les façons d'appréhender le matériel pendant la course ont évolué. Maintenant, la plupart des personnes le glissent derrière le dos pendant la partie course à pied avec un élastique, un trou au milieu du pool boy, un élastique. Et donc, la transition se fait très naturellement. Donc là, c'est pareil, il faut regarder sur Internet, sur les réseaux sociaux. Mais la dernière version de l'utilisation du matériel est vraiment très 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 simple et ça permet vraiment de ne pas perdre de temps et de ne pas être gêné. Le pool boy derrière le dos en course à pied, on sait même plus qu'on a un pool boy lorsqu'on court.
Ouais. Et donc une question ensuite, bien sûr, surtout sur les distances que vous pouvez parcourir, la question de l'alimentation qu'on a commencé à aborder un petit peu en disant il y a des poches dans la combinaison pour mettre des gels, des choses comme ça. Effectivement, il n'y a pas de ravitaillement du tout sur les courses.
Si en fait l'organisateur prévoit des ravitaillements qui sont gérés du coup par des bénévoles, hein, bien souvent. Alors on trouve de l'eau, des quartiers, des bouts d'orange, un peu de tout. Voilà, on a même vu des tuques sur certaines courses. Voilà. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que on est en semi-autonomie parce que les tronçons peuvent être longs et donc vous êtes obligé en fait quand les tronçons sont longs d'avoir avec vous de l'eau parce que sinon vous vous déshydratez très vite et ça va nuire à votre performance. Par ailleurs, les organisateurs aujourd'hui dans la thématique du développement durable ne fournissent plus de gobelets. Alors, on retrouve ça dans plein d'événements, hein, l'étape du Tour par exemple, pareil. Donc là, il faut que vous veniez avec soit votre éco-cup qui est glissé, ouais. Soit vous avez du coup des flasques que vous remplissez quand vous arrivez du coup au ravitaillement. Donc voilà, il y a quand même des ravitaillements. Là, par exemple, ce week-end, on a fait une épreuve de 4h45. Devait y avoir peut-être 5 ravitaillements dans ces eaux-là. Qui sont bien… Ouais, peut-être un peu plus d'ailleurs. Parce que dans la montée finale, il y en avait un peu plus. Mais ils sont bien utiles. Mais il n'empêche qu'il faut que vous ayez aussi votre propre alimentation. Parce que si vous ne comptez que sur les ravitaillements de l'épreuve, vous allez tout droit vers l'hypoglycémie.
Ouais. Et donc, parce que la question qui se pose, c'est finalement, qu'est-ce qu'on peut amener ? On a parlé de gel comme ça, mais si on n'aime pas... Enfin, moi, je ne supporte pas trop les gels. Hein. Je le dis, au niveau du ventre, ce n'est pas le truc qui passe le mieux. Les poches sont hermétiques ou ça prend l'eau quand on nage ?
Non, les poches sont pas, pour l'instant, les poches ne sont pas hermétiques. Donc, c'est vrai que pour l'instant, à part des tubes, c'est vrai que nous, les tubes passent bien pour tous les deux. Donc, on n'a pas testé autre chose que des tubes. Et pour compléter un peu par rapport à ce que disait Jérémy, il y a différents types d'épreuves. Le swim run. Il y a parfois la quantité de course à pied est plus importante, parfois c'est la natation. Et dans les types d'épreuves, il y a aussi des épreuves comme en trail. Il y en a certains qui vont vraiment privilégier l'autonomie et d'autres qui vont mettre beaucoup de ravitaillement. Mais il y a vraiment certaines épreuves où il y a très peu de ravitaillement. Donc il faut vraiment être sensible à lorsqu'on fait une épreuve au nombre de ravitaillements. On a connu nous Belle-Île où vraiment les ravitaillements c'était vraiment histoire de compléter ce qu'on pouvait avoir sur soi et privilégier l'autonomie presque totale alors qu'il y en a d'autres où il y a beaucoup de ce week-end par exemple il y avait beaucoup de ravitaillements et donc là auquel cas on a besoin de moins chaud d'apporter moins de choses sur soi mais voilà ça dépend des types d'épreuves.
Après, pour ceux qui ne supportent pas, déjà il y a différents types de fléchettes, hein, de tubes, comme on dit. Donc il faut tester, hein, il faut trouver le produit effectivement qui correspond bien à sa digestion et à son assimilation. Et puis moi, par exemple, ce week-end, j'avais pris en plus une barre de céréales, un type pâte d'amande, parce que effectivement, les tubes, à un moment donné, ça devient assez écœurant, on n'en peut plus. Et moi, voilà, je me suis dit à peu près à la moitié, je vais me manger un petit truc solide en plus. Donc j'avais cette pâte d'amande et elle a fait du bien. Hein. Donc voilà, même si le papier il est un peu abîmé parce que la poche elle est pas hermétique, le on s'en fout, le contenu, voilà. Mais ce qui est dedans, c'est important. Donc voilà. Je pense qu'il y a toujours moyen de trouver des solutions.
Voilà, et ben c'est un bon tour technique, hein. Comme ça je pense qu'on a à peu près tous les aspects de... Et puis pour ceux qui veulent démarrer, bien sûr on va pas démarrer sur des grandes courses non plus, on va se tester sur des petites distances, hein. C'est ce que moi je vais faire en tout cas dans 15 jours maintenant, c'est pile dans 2 semaines par rapport au jour où on enregistre. Pour finir, bon, vos projets pour le futur, on a bien compris que ben, au kilo c'est reparti, il va falloir voir comment c'est la qualification, mais est-ce qu'après les championnats du monde finalement, après ces courses-là, est-ce qu'il y a d'autres épreuves du même type qu'Otilo, mais de swimrun, mais qui seraient sur d'autres distances, sur des raids, sur des choses comme ça? Ou est-ce que finalement, l'Everest du swimrun, c'est Otilo finalement? Est-ce qu'il y a autre chose après encore?
Ah, non, je pense qu'aujourd'hui, le Graal, comme disait Nicolas, c'est le bon mot. C'est comme celui qui a fait Hawaï. Après, il y en a qui ont fait Hawaï une fois et puis ils y retournent 10 fois parce que, en fait, la première fois, vous y allez, vous découvrez l'environnement, vous vous dites, bah voilà, j'ai pas optimisé ma performance et puis j'ai envie d'y retourner pour faire mieux. Nous, aujourd'hui, on est à l'aube de la quarantaine, on fait déjà pas mal de sacrifices par rapport à notre sport, donc on s'est dit, on fait step by step. On s'est dit, voilà, on essaye de se qualifier, ensuite on le fait du mieux possible et après on fera le bilan et on verra. Il y a d'autres dans le sport, il y a d'autres choses à faire encore. Donc voilà, peut-être, on ne sait pas, hein, peut-être on va faire encore 3 ans du swimrun, puis après on va passer à autre chose. Peut-être dans 10 ans on se reparle, on est encore en train d'en faire, mais peut-être qu'à l'échelon régional et plus à se dire je vais sillonner l'Europe pour marquer des points et puis parce que ça me coûte cher. Puis de toute façon je suis plus dans la performance. Donc voilà, enfin bref. On ne sait pas, mais on vit le moment présent. Et là, pour le moment, notre objectif, c'est de se dire faut qu'on fasse cette course, cette belle course, et qu'on marque ça dans notre palmarès de sportif.
Eh ben, c'est une très belle conclusion, effectivement, parce qu'on cherche tous à inscrire comme ça des courses dans nos palmarès, chacun dans nos domaines. Il y a quelques jours, je recevais quelqu'un qui, lui, c'est du trail, hein, donc il s'attaque à la diagonale des foules et des choses comme ça, qui sont encore d'autres types d'épreuves. Il y en a qui c'est l'UNTMB, il y en a qui c'est effectivement Hawaï, et vous, ben, c'est vrai que dans votre sport, hein, pour l'instant, c'est Otilo, et puis peut-être après aussi avec le développement, peut-être qu'il y a d'autres choses qui peuvent venir, hein, on ne sait pas, parce que c'est vrai que c'est un sport qui est finalement très jeune, hein, qui se construit, où tout se fait petit à petit. Et c'était vraiment super sympa de vous avoir, de découvrir avec vous, avec votre niveau que vous avez, qu'est-ce que c'est ce sport, quelles sont toutes les spécificités, parce qu'on a bien compris quand même que il y a plein de trucs, il y a plein de petits détails à régler, hein. C'est pas juste courir, nager comme ça, ça paraît presque simple quand on le dit, mais en fait il y a de la complexité dans les transitions, dans la technique, le matériel, etc. Et un truc qu'on n'a pas dit d'ailleurs, hein, sur les combinaisons, c'est que ça se loue, des combinaisons de swimrun, hein, pour tester, pour ceux qui veulent en faire un, ça se loue, donc on peut trouver à les louer pour tester, etc. On n'est pas obligé de tout acheter au départ, hein, et voilà, ça fait partie des choses comme ça. En tout cas, merci vraiment beaucoup. Je vous souhaite beaucoup beaucoup de réussite, bah, dans vos futurs projet, hein. J'espère que cette fameuse course d'Otilo, vous arriverez à l'accrocher et à pouvoir la faire. Comment on fait pour vous suivre? Où est-ce qu'on peut vous suivre? On a dit, vous avez une page Facebook, vous avez un compte Instagram. C'est quelle adresse?
Bah, c'est notre nom, en fait. Donc NJ Swimrun, donc N pour Nicolas, J pour Jérémy, Swimrun tout attaché en minuscule. Et du coup, voilà, c'est on essaye de partager notre parcours, que ça soit en phase d'entraînement, en phase de compétition, de faire des petits comptes rendus, de faire connaître aussi nos partenaires dont on a parlé tout à l'heure. Voilà, donc c'est assez large, Et voilà, donc on sait avec plaisir qu'on aura de nouvelles personnes qui pourront nous suivre suite à cette interview si jamais ça les intéresse de découvrir un peu plus loin ce qu'est le swimrun et comment on peut l'appréhender.
Eh ben, merci à vous. J'ai une petite question quand même pour le prof de PS. Est-ce qu'on peut imaginer qu'un jour on mettra des élèves en swimrun et que ce serait une discipline qui serait intéressante pour des enfants?
Eh ben c'est sûr et certain que dans quelques années on aura du swimrun à l'association sportive le mercredi après-midi. C'est vrai que le triathlon est venu assez rapidement dans ce cadre-là et je pense que assez rapidement on trouvera des petites compétitions au niveau régional et peut-être mieux encore au niveau national. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est en train d'émerger dans ma tête. Moi, j'ai une section triathlon au sein de mon établissement. J'ai une AS sur tout ce qui est activité de pleine nature. Et donc, c'est sûr que ça commence à trotter dans ma tête. Et peut-être que je serai un des pionniers à enseigner le swimrun au niveau scolaire. En tout cas, un grand merci à toi et n'hésitez pas à nous poser des questions si vous avez besoin, on répondra avec grand plaisir. Merci pour cette invitation et à bientôt.
Ben merci à vous, bonne continuation dans vos projets, on va suivre ça avec attention et je sais que les gens ont beaucoup apprécié ce moment-là et ils viendront aussi vous poser des questions parce que c'est systématique, il y en a toujours qui ont plein 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 de questions, donc j'espère qu'ils viendront vous suivre, qu'ils viendront vous encourager et en tout cas, belle continuation à vous et merci beaucoup pour tous les conseils que vous nous avez donnés.
Merci, à bientôt.
Merci, salut. Au revoir.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.